Voilà, je remets tout au Seigneur ce soir. Après avoir dit notre Père avec Marie-Hélène, nous sommes le mardi 29. Le mardi 29 novembre 2022. J'ai choisi de parler de l'histoire de la chrétienté. L'histoire de la chrétienté peut être vue avec des livres, des atlas. On peut trouver cela dans Internet, chez de grands articles sur les religions, dans des livres faits par des croyants. Je n'ai pas choisi ces étapes, j'ai choisi la Bible pour traduire la vie de la chrétienté. Et donc, je parlerai d'abord de la première génération. La première génération qui est décrite dans Matthieu 13. Jésus est venu sur la terre et il a parlé. Il a parlé avec foi. Il a parlé avec joie et il a parlé selon ce que Dieu lui demandait de dire, son Père. Et il a certainement, pour nous, déposé la meilleure des paroles sur la terre. C'est pour cela que je prêterai attention à ce que dit Jésus dans Matthieu chapitre 13. Je ne sais plus si j'y suis ou pas. Il y a quelque chose de normal. Voilà. Dans Matthieu 13, Jésus raconte plusieurs paraboles. Elle relate sa vision de la foi sur la terre, telle qu'elle va se passer, de l'accueil de sa prédication, de sa personne, et de sa mort et sa résurrection. Un semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. L'explication de cette parabole est donnée un peu plus loin. Verset 18. Matthieu 13, 18. Voici donc, écoutez ce qui signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, donc la parole de Jésus-Christ et son témoignage, des visous, c'est-à-dire en le voyant agir, guérir et mourir sur la croix, ressusciter, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence d'un bon terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain et en donne 100, un autre 60, un autre 30. Les résultats du passage de Jésus sur terre pendant 33-35 ans, les résultats sont assez tranchés d'après cette parabole. Les auditeurs accueille différemment la personne de Jésus et son enseignement, et son sacrifice et sa résurrection. Mais Jésus veut forcer l'attention. C'est pour ça qu'il parle en parabole. S'il explique tout trop clairement, les personnes ne prêtent pas attention. C'est une façon, les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères, donc la réalité du royaume des cieux, donc de Jésus-Christ et de ceux qui l'accueillent. À eux, cela n'a pas été donné. » Ce qui veut dire que ça sera peut-être donné plus tard, mais ce n'était pas le moment. Jésus a voulu forcer l'attention et il a voulu finalement que les personnes qui sont là, y compris les 11, les femmes et bien d'autres, se pose des questions. La question, suis-je concerné par la personne de Jésus? Qui suis-je pour Jésus? Qui suis-je face à Jésus? Quel engagement vais-je prendre pour lui, à son égard? ou quel engagement ai-je déjà pris? L'action de Dieu est donc d'interpeller, d'appeler, de questionner l'être humain et de lui proposer un autre chemin. Le petit chemin étroit, la porte basse, et pas la grande avenue de l'égarement humain. L'action de Dieu est claire à travers Jésus. Il s'adresse à l'esprit des humains. Il s'adresse au cœur aussi. Et il veut que ces personnes deviennent des adorateurs en esprit et en vérité. Lorsqu'il parle avec la Samaritaine, c'est cela qu'il lui affirme. Il veut une nouvelle génération, des personnes qui prient, qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Cela, c'est fondamental. Ça a une conséquence énorme. Soit ça donne des fruits, le blé qui donne des fruits, 30, 60, 100 ou 10, peu importe, les fruits. Soit ça donne la stérilité, aucun fruit. Alors, Jésus donne bien sûr une recommandation en Matthieu 11, verset 25-30. En Matthieu 11, 25-30. En ce temps-là, Jésus prit la parabole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, donc je vais dire plutôt aux présomptueux, c'est ça que ça veut dire, et de ce que tu les as révélés aux enfants, c'est-à-dire aux personnes humbles et qui écoutent, qui prêtent attention à Jésus. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. » Donc Jésus affirme qu'il connaît bien Dieu, son Père, qu'il appelle Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc un homme peut connaître Dieu s'il reçoit une révélation de la part de Jésus. Donc finalement, dans cette parabole du blé, c'est la parabole de la personne de Jésus qui vient révéler le Père aux humains. Cela revient à dire, comme Jean l'a dit dans Jean 1,16, « Nul n'a jamais vu Dieu, nul ne le connaît, et son Fils Jésus, issu du sein du Père, de la Trinité donc, nous l'a fait connaître. » Il est donc clair que Jésus vient révéler le Père. C'est cela la mission de Jésus-Christ. Une des missions, mais la mission principale. Prenons la deuxième parabole. Évidemment, ce ne sera pas tout à fait la même chose. La deuxième génération commence aussitôt que Jésus est monté au ciel. Jésus, visiblement, n'est plus là. On ne peut plus recevoir de lui en direct le message, le témoignage, les miracles, etc., de Jésus. Et la résurrection a été suivie de l'ascension. Jésus est parti. « Je vous ai avantageux que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne parmi vous. Il vous enseignera, toutes les choses que je vous ai déjà annoncées. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas tout porter. C'est impossible, c'est sûr. » Jésus s'est adressé à des êtres limités, comme nous aussi d'ailleurs, et il prend le temps, il y a une pédagogie de Dieu pour révéler sa volonté, révéler sa personne par le biais de Jésus dans nos vies. Donc, en l'an 30, Jésus est ressuscité et monté au ciel. Commence la prédication des apôtres 50 jours plus tard. Les apôtres prêchent. Alors qu'ils avaient fui, ils n'hésitent plus, ils ont reçu toute confiance, toute paix, toute joie, toute force par le Saint-Esprit, et ils parlent de Jésus ressuscité, ils sont de véritables témoins, ils sont de vrais disciples, c'est le blé qui va porter du fruit, c'est l'image du blé. Voilà l'aboutissement de la première parabole. Ils sont de vrais disciples. Bien sûr, il y a des gens qui ont vu Jésus, qui l'ont connu, et qui vont être de faux disciples et de faux docteurs. Ils vont enseigner des autres choses. Ils vont déformer l'enseignement de Jésus. Ils vont apprêcher un Jésus c'est différent. Nous verrons quel Jésus différent ils ont pu apporter. Un Jésus qui n'est pas homme, un Jésus qui n'est pas Dieu, un Jésus qui est un thaumaturge, un faiseur de prodiges, fantaisiste, ou un homme qui vient supprimer Moïse et les rites, un ennemi de la foi juive. Une multiplicité d'écrits fantaisistes et de prédicateurs hors vérité apostolique vont tout de suite apparaître, en contradiction en face des apôtres et des vrais serviteurs de l'Évangile. Une multitude de prédicateurs hors vérité apostolique. Le combat commence. Et cela fait référence, bien sûr, à la deuxième parabole, Matthieu 13, verset 24. Je vous le lis. Il proposa une autre parabole et dit : Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? Il leur répondit : C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent : Veux-tu que nous allions arracher l'ivraie ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur : Arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Verset 36, Matthieu 13, 36. Jésus renvoya la foule et entra dans la maison de la mère de Pierre. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit : Celui qui sème la bonne semence est le Fils de l'homme, Jésus. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc, voici clairement, nous avons l'image du vrai disciple, de celui qui donne la vérité apostolique, la vérité du Saint-Esprit, selon en fidélité à Jésus, à son œuvre, à sa croix, à sa résurrection, et puis les autres, les fils du malin, qui vont semer autre chose que la vérité évangélique et apostolique. Ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc le blé qui est mis dans les greniers, c'est finalement une image pour représenter les justes qui resplendissent dans le royaume de leur Père, du Père des cieux. Clairement, ici, nous avons donc une affirmation. Il apparaît tout de suite, et les disciples sont avertis, avant que ça arrive, des vrais et des faux disciples, des vrais docteurs de la foi évangélique et des faux docteurs d'une foi non évangélique. Cela est extrêmement important parce que Jésus était Dieu et pouvait tout déjà avancer, prédire. Dans Jean, chapitre 16, verset 33, « Courage, j'ai vaincu le monde, j'aurai des tribulations, courage, j'ai vaincu le monde. » Il est clair que le disciple, le vrai disciple, est appelé à ne pas se décourager, à ne pas être incrédule. Mais de l'autre côté, il y a des personnes qui ont entendu parler de Jésus, qui vont s'intéresser à Jésus et qui vont en parler et en témoigner de manière incrédule. Soit en croyant qu'il n'était pas vraiment un homme, soit qu'il n'était pas vraiment Dieu, soit qu'il n'était pas vraiment mort sur la croix, soit qu'il n'était pas vraiment né pour sauver les hommes, mais simplement pour faire des miracles, des prodiges, fantaisistes. Ce sont des incrédules que j'appelle durs. Ils sont durs. Ils sont obstinés dans leur égarement. Prenons Matthieu 12, versets 38 à 42. Matthieu 12, versets 38 à 42. quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentiront à la prédication de Jonas. » Ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement. Avec cette génération, elle la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, c'est-à-dire connaître Dieu. Et voici, il y a ici plus que Salomon, c'est-à-dire le Messie, Jésus, le Fils de Dieu. Nous avons bien l'explication de par Jésus de ce que c'est les incrédules durs qui ont le nom de Dieu dans la bouche. Évidemment, on va prendre d'autres textes pour aller un peu plus loin. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 1 à 15. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 1 à 15. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 1 à 15. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, le prix étant Jésus, son sacrifice à la croix, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Par la justice, c'est-à-dire la sainteté miséricordieuse qui pardonne les pécheurs. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, donc à la foi, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc la divine puissance nous a donné tout ce qui peut contribuer à une vie spirituelle éternelle et à la piété, à la foi, au moyen de Jésus, qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Cette gloire et cette vertu de Jésus nous assure de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, Jésus a une puissance inhérente à sa personne, même partie au ciel, qui est agissante à l'époque de la deuxième génération chrétienne, qui naît aussitôt dès que Jésus est au ciel. Cette génération peut être investie de la puissance de Dieu pour fuir la corruption du monde et pour recevoir en elle vie et piété, et foi, et gloire, et vertu. Alors, à cause de cela, Pierre invite à ceci. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la connaissance de la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle, et l'amitié fraternelle, l'amour. Si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance, et ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a personne à la porte, hein? Mm-hmm. Donc, il est clair que Dieu contribue en nous à une croissance spirituelle qui couvre tous les domaines de d'une transformation plénière. N'est-ce pas ? C'est foi, vertu, connaissance de Dieu, maîtrise de soi, patience, piété, amitié fraternelle, amour. Si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance, c'est-à-dire la relation éternelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc clairement, nous voyons que le bon blé, dans la deuxième génération, ces disciples de Jésus qui sont considérés comme la bonne semence, voilà leur programme, c'est leur programme. Pour la mauvaise semence, pour l'ivrie qui a grandi, qui a entendu la prédication apostolique et qui en fait autre chose. Eh bien voilà. Verset 9, deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 9. Mais en celui en qui ces choses ne sont point, est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc nous voyons que l'ivri, c'est quelqu'un qui peut parler de Jésus, qui certainement le fait de tous ses efforts, et qui peut être travesti à la personne de Jésus dans différentes interprétations personnelles. Et il a surtout oublié la purification de ses anciens péchés. Il n'a pas compris que l'œuvre de Christ, c'est de nous purifier entièrement de la puissance, de la nature du péché qui nous a investis. Comme Romains 7 le dit, le mal que je fais, que je ne voudrais pas faire, je le fais, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, car malheur à moi, c'est le péché qui m'habite, qui domine en moi. Il faut être purifié de cette domination, de cet empire du péché, par la personne même de Jésus. Donc, essentiellement, dans la deuxième génération, celui qui a vraiment, je dirais, raté au niveau de la foi, c'est celui qui ne croit pas que Jésus est à l'œuvre pour purifier des péchés. Il en fait un personnage de, comme bien d'autres, qu'il sans doute il rencontre sur son chemin. Il oublie que le pardon des péchés, la purification des péchés, c'est l'œuvre même de Christ, encore actuellement dans sa vie. Donc l'incrédule ne sait pas que l'œuvre de sainteté, de sanctification de Jésus est le message essentiel de l'Évangile. C'est une grande controverse, bien sûr, parce que ces personnes vont s'entêter en affirmant qu'elles sont chrétiennes, tout comme les autres qui sont vraiment en Christ. Cela va donner un conflit. Alors, regardons dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, verset 16, ce que Pierre dit. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Donc clairement, Pierre se définit par rapport aux autres prédicateurs comme quelqu'un qui est fidèle à Jésus, qu'il l'a vu dans sa gloire, et il est un témoin, tandis que les autres ont brodé des fables et ont transformé l'enseignement et la personnalité de Jésus à leur guise. Et voici ce que Pierre affirme au verset 17. Il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fut entendue une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Oui, au baptême, dans le Jourdain, devant Jean-Baptiste et les onze disciples qui deviendront des apôtres plus tard de Jésus-Christ, mais aussi dans Matthieu 17, transformation sur le mont Hermon. Et plus tard, sans doute, que cette parole du Saint-Esprit leur a été encore révélée bien souvent dans leur âme. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Pourquoi Pierre dit-il cela? Parce que les hommes ont une âme obscure, y compris lui, et que c'est simplement la lumière de Christ ressuscité, révélée par le Père et par le Saint-Esprit, c'est seulement cette lumière-là qui donne la clarté dans le cœur. Si nous considérons Jésus d'une autre manière et que nous avons brodé des fables, eh bien l'âme reste un lieu obscur sans lumière. Alors je reprends ce verset 19. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Finalement, Pierre le dit clairement, le Christ veut paraître et briller dans le cœur des auditeurs de l'Évangile. À une condition, de ne pas s'égarer. Verset 20, sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie d'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et voilà la clé. Voilà la clé. C'est reconnaître l'autorité de l'Écriture, et du témoignage des apôtres. Tandis que les faux docteurs, les incrédules durs, comme je les appelle, les faux messagers, les faux disciples, ne considèrent pas que tout ce qui est révélé par Jésus et par les apôtres et par les prophètes de l'Ancien Testament est animé la puissance, la personne du Saint-Esprit. Ils remettent en question la puissance et l'autorité de la révélation. Voilà les incrédules durs. Voilà devant qui il faut être en garde. Jacques, dans le chapitre 1, nous explique aussi ce même phénomène. D'une manière tout autre. Mes frères, chapitre 1, verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc la foi, c'est l'adhésion à Jésus-Christ crucifié et ressuscité, et c'est la vie dans le Saint-Esprit, c'est l'adhésion à l'autorité de l'Écriture, à l'adhésion à l'autorité de toutes les révélations émises dans les prophètes de l'Ancien Testament, dans la bouche de Jésus et dans la bouche des 12 apôtres. La foi produit la patience. Elle permet de supporter l'épreuve. L'épreuve de quoi ? Mais des contradicteurs, évidemment. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc voilà un enseignement extrêmement incroyable, c'est que quand Jésus a dit n'arrachez pas l'ivraie sous peine d'arracher le blé peut tenir bon dans l'ivraie, il peut ne toujours grandir, sans faillir en rien. Jacques, chapitre 1, verset 4. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc, bien sûr, nous sommes précaires, nous sommes faibles, et nous qui avons reçu Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, nous pouvons, à un moment donné, être très pauvres. Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, elle lui sera donnée. Voilà la façon dont il faut se comporter. Qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Donc il s'agit ici des incrédules, de tous ceux qui ont remis en question l'autorité de l'Écriture et l'autorité même de la nature divine et humaine de Jésus-Christ en une seule personne. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents, poussé de côté et d'autre. Chers amis, pensez à cette tempête où les apôtres étaient dans la barque et où Jésus n'était pas là, il était dans la montagne, il priait pour eux. Quand ils allaient périr et qu'ils allaient se voir engloutis, Jésus, qui priait, les voyait dans l'obscurité de ce monde et venait à leur secours et venait les rechercher, les fortifier et monter dans la barque. Cette image est claire. C'est clair. Il ne faut pas douter. Jésus est à l'œuvre dans son Église. Jésus vient au secours des vrais croyants. Mais si un homme doute, eh bien, il est agité par les vents et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc voilà les caractéristiques morales et spirituelles de l'ivraie. Nous les avons là. Comment une personne faible et précaire, parce qu'on l'est tous, peut devenir forte et être le bon grain ? Eh bien, regardons. Jacques 1, 9, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, c'est-à-dire de cette élévation que produit Dieu, Christ en lui, Christ ressuscité. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Donc le présomptueux ne peut se glorifier que d'une chose. Quand Dieu brise son orgueil et l'humilie. Car il passera comme la fleur de l'air. Il doit savoir qu'il ne vit pas longtemps sur terre. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente et a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans les entreprises. Donc l'incrédule doit connaître ses limites et les admettre. sa précarité. Alors voici ce que Dieu dit pour celui qui est croyant, celui qui est en Christ, bien qu'éprouvé fortement ou peu, il dit ceci au verset 12. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » N'est-ce pas cela quand, dans la parabole de Jésus, Matthieu 13, la parabole de l'Olivier, Jésus dit « Ils seront mis dans mon royaume. » Ils seront couronnés. Le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. C'est-à-dire, c'est une question d'amour. La foi n'est pas seulement une question de raison, elle est aussi une question d'amour, d'adhésion entière. Pour l'incrédule qui n'écoute que son propre jeu, et qui n'écoute pas le Saint-Esprit quand il lui parle, qui n'écoute pas réellement l'enseignement apostolique, évangélique. Verset 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Donc l'incrédule, même portant le nom chrétien et étant opposé au chrétien spirituel, l'incrédule charnel, le chrétien charnel, il peut accuser Dieu. L'accuser Dieu. Fortement. Mais, voici ce que Jacques dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Dieu ne tente personne. C'est le péché en moi, si je consens à le laisser régner, il amorce en moi des forces hostiles à Dieu, hostiles à l'Évangile, des forces différentes et sous différents aspects qu'on appelle convoitise. La convoitise, lorsqu'elle a conçu enfant le péché, donc l'opposition à Dieu, le péché étant consommé, produit la mort. L'incrédule, le livré, suit ses convoitises et il est séparé de Dieu, même s'il parle de Jésus. Voilà ce qui est dit. Voilà comment a commencé la chrétienté, selon les avertissements et les enseignements de Jésus. La foi et l'épreuve vont ensemble. La foi et l'épreuve vont ensemble. C'est, bien sûr, chez Jacques, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voilà le choix. La parole est puissante lorsqu'elle est mise à l'œuvre dans la plus grande humilité. Au verset 25, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, donc dans l'Évangile, dans Jésus-Christ, la loi de la liberté, et qui aura, vis-à-vis du péché, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Que dit donc Jacques ? Le bonheur et l'épreuve, à travers la foi, c'est le recto verso de la même pièce. C'est le lot du chrétien. Du vrai chrétien. Le vrai chrétien doit pouvoir répondre à certains critères de comportement. Versets 26 et 27. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Tromper son propre cœur. Voilà la caractéristique de l'homme ivré, de la femme ivrée. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Il est clair que dans les premières épines de Jean, si nous aimons les frères, nous sommes passés de la mort à la vie. Voilà, ça revient au même. Nous pouvons réellement accueillir la parole de Dieu de deux manières. Soit comme le bon, être le bon blé pour les autres, soit être livré pour les autres. Nous pouvons être dans la méprise fondamentale, une méprise totale vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de sa parole. Nous pouvons même être opposés au Saint-Esprit, donc à la vérité de Jésus, donc blasphémer contre le Saint-Esprit en prétendant être chrétien sans être transformé par le Saint-Esprit, sans l'accepter dans nos vies. C'est cela le blasphème. Le chapitre 2 de Jacques, verset 23, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, c'est-à-dire, à cause de sa foi, il reçoit le pardon de ses péchés et il fut appelé ami de Dieu. Le vrai chrétien, le blé, si vous voulez, c'est celui qui a la foi en Dieu et dans la grâce, le pardon des péchés en Christ. Et il fut appelé ami de Dieu, n'est-ce pas vrai? Dans Jean, chapitre 15, verset 15, Jésus a dit, vous êtes mes amis, vous n'êtes plus mes serviteurs, car je vous ai fait connaître tout ce que mon Père vous avait dit, m'avait dit. On peut résumer ceci, le vrai croyant fait l'expérience de Jésus-Christ sans cesse, dans la plus profonde humilité. Il pratique l'hospitalité envers ses frères et ses sœurs persécutés dans l'épreuve. Pensons aux veuves, aux orphelins, mais aussi aux chrétiens persécutés, pourchassés. Pensez à Matthieu 25, j'étais nu, j'étais affamé, j'étais prisonnier. Et Jésus dit, quand vous avez fait cela à l'un de ses plus petits, donc à des chrétiens, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus a aussi dit, si vous donnez un verre d'eau à un de mes disciples, c'est à moi que vous l'avez donné. Fondamentalement, Jésus admet les petites choses, les petits détails qui révèlent le cœur, comme les cœurs transformés, les cœurs qui lui appartiennent. Aimer les autres frères, aimer les autres chrétiens, c'est aimer Jésus-Christ. La puissance de l'amour est contre la puissance de Satan. La puissance de la foi des premiers chrétiens a résisté à la Rome meurtrière. La puissance de la foi est accompagnée de signes visibles de Jésus-Christ. Il y a eu des miracles, des guérisons. Il y a eu de grands témoignages. Plus la puissance de Satan s'acharnait sur les chrétiens, plus l'ivrée s'acharnait sur le blé, plus le blé résistait et poussait. S'il y a eu des défections, que demande Jésus? Que demandait Jésus? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus a demandé de pardonner à ceux qui tombent dans l'apostasie, qui abandonnent le chemin. La prière du Notre Père nous montre bien qu'il faut rester sans rancune, sans amertume vis-à-vis d'un frère qui chute. Et il faut attendre un retour de Jésus. Dans la deuxième épine de Pierre, Jésus dit que Pierre dit que Dieu, et donc Jésus-Christ, est patient à notre égard. Et patient, infiniment patient. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur Jésus, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, ce qui était déjà à l'époque, à la deuxième génération, il viendra des moqueurs avec leurs railleries marchant sur leur propre convoitise. Effectivement, ça a commencé tout de suite. Ils disent où est la promesse de son retour, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, par le Christ, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, image du Christ. et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau, sanctionné par Christ. Mais par la même parole, les cieux et la terre, la présence sont gardés et réservés pour le feu. Par la même Christ, réservé pour le feu, pour le jour du jugement, de la ruine, des jugements impies, des hommes impies. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que dès le départ du christianisme, les chrétiens savent qu'il y aura un jugement, qu'il y aura une rétribution et qu'il faut s'y attendre. Elle est fondamentale dans la foi. Verset 8. Il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà donc l'attitude de Christ aujourd'hui sur la terre, et du Père dans les cieux, évidemment, c'est la patience. C'est la persévérance à sauver et à sanctifier. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, donc le ciel, les étoiles, le soleil, et la terre et les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez la venue du Seigneur Dieu. Bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur Jésus est votre salut, comme notre frère bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 17, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Nous voyons bien qu'il y a le combat entre le blé et l'ivraie est bien décrit dans les Épîtres, dans les propos des apôtres. Ils sont donc exactement bien enseignés par Jésus-Christ lui-même, selon la deuxième parabole du blé et de l'ivraie. Sur le terrain des incertains qui vont régner et qui vont être très nombreux alentour des vrais croyants, sur le terrain des incertains qui sont convaincus toutefois d'avoir raison, il va se développer des théories, des pensées et même des livres, qu'on a livre apocryphe, qu'on dit livre épigraphe, pour proclamer des nouvelles fausses. Et Satan va essayer d'y régner à travers toutes ces nouvelles fausses. Matthieu 12, versets 29 et 30. Matthieu 12, versets 29 et 30. Quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Si un homme est habité par quelqu'un de puissant, par Satan, n'est-ce pas? Qui peut, avec des fausses théories, un faux évangile, le délivrer? Personne. Seul Jésus-Christ peut délier quelqu'un qui est lié dans l'égarement, par le péché, par l'orgueil, par Satan. Seul Jésus-Christ, c'est l'autorité de Jésus-Christ de venir délivrer le pécheur et voir l'homme possédé. Jésus-Christ peut faire une œuvre vis-à-vis de Satan énorme, ruiner l'œuvre de Satan et établir la vérité, et établir sa personne dans la vie. Verset 30, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Voilà un avertissement pour tous les chrétiens de la seconde génération. Celui qui n'est pas avec moi s'est livré et contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est toujours livré. Comment se peut-il que tant d'hommes et de femmes ont osé déformer l'évangile? Et encore aujourd'hui. Et comment se peut-il qu'une minorité a tenu bon? et a continué à témoigner et à porter du fruit et a convaincu d'autres de recevoir Jésus dans leur vie. Eh bien, d'abord, la première catégorie, les incertains, les convaincus, incrédules, qui veulent toujours avoir raison, mais qui sont hors de la vérité, n'ont pas d'amour pour Jésus-Christ crucifié. Ils n'ont pas d'amour pour sa personne. Ils n'ont pas demandé réellement pardon pour leurs péchés. Mais ils ont l'amour des fables. Ils ont l'amour du grand menteur. Elles opèrent un refus permanent de l'Esprit Saint. Ils ont un refus permanent de la parole des apôtres. D'où la multiplicité d'écrits fantaisistes et de prédicateurs hors vérité apostolique qui se sont multipliés dès le début du christianisme. On peut appeler cela la querelle des frères et des faux frères, la querelle des prédicateurs et des faux prédicateurs, la querelle des foules qui va devoir choisir le vrai ou le faux. Pourtant, Jésus a demandé au blé, un serviteur, à ceux qui sont fidèles, de ne pas arracher le livret. Si dans cette deuxième parabole, Jésus a demandé cela, c'est qu'il demande aux vrais croyants de ne pas sévir, de ne pas violenter les incrédules, les endurcis, les faux docteurs, les faux frères. Ni sévir, ni violenter, ni anathémiser. Ne prendre aucun moyen violent, moyen impur. Ne pas retourner au péché devant la situation que provoque la présence de ces personnes alentour d'eux. Matthieu 5, verset 38. Rappelez-vous que Jésus a dit, n'est-ce pas, heureux les doux. Heureux les doux. Dans Matthieu 5. Le bonheur est d'être dans la même situation spirituelle que Jésus-Christ. Donc Matthieu 12, verset 37. Que votre parole soit oui, oui, ou non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Il faut donc éviter la duplicité, il faut donc éviter l'incrédulité. Mais, je vais plus loin. Quand on a une situation conflictuelle, une querelle de frères, je veux dire, une querelle entre enseignements apostoliques et autres enseignements, entre adhérents de la vérité et adhérents d'autres vérités, il y a quelque chose qui va se faire, qui va se provoquer, la colère, le dépit. Il peut y arriver l'animosité, la haine. Alors, Matthieu nous avertit. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, toi, prends ta tunique, déchire encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mine, fais-en deux. Donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Il est clair que le vrai chrétien ne va pas agir avec haine envers une autre personne qui est chrétien et qui ne l'est pas. En tout cas, qui ne l'est pas authentiquement. Rappelons-nous ce que Paul a dit dans Romains chapitre 12. Qu'il faut les vaincre le mal par le bien. Ainsi, nous mettions des charbons ardents sur la tête de celui qui fait le mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Imaginez une situation dans un village de Galilée ou de l'Empire romain où un chrétien, une chrétienne, une famille vit là et est complètement toujours critiqué et à qui on fait des sales tours, des niches. Et puis tout d'un coup, sachant bien qu'il n'y a pas de chauffage central, il n'y a pas de chauffage au gaz, ni au mazout, et sachant qu'il y a au minimum et au maximum un feu à bois. Et voilà que ces personnes hostiles, ces malfaisantes, qui font souffrir les enfants de Dieu, et qui se croient en ordre, qui sont convaincus d'être bons, et qui sont privés de feu. Leur feu s'est éteint. Ces personnes vont venir toquer à votre porte, elles vont vous demander des braises, et ils vont venir avec un pot en terre cuite pour, si éventuellement on veut bien leur donner des braises, pour refaire un feu chez eux, pour se réchauffer, pour pouvoir faire à manger. Le chrétien peut être animé de souffrance, de frustration, de colère, et refuser. Et non. Cette image est claire, mettez des cendres dans ce pot, car la personne va retourner avec son pot sur la tête, avec les braises dans le pot, pour se réallumer un feu. C'est l'attitude de bienveillance, l'attitude de pardon qui est demandée dans ce verset. Vous mettrez des charbons ardents sur la tête de celui qui vous a fait mal. C'est-à-dire, vous ferez du bien à cet homme, même s'il vous a fait souffrir. Et vous ferez le meilleur des biens. Vous ferez le plus grand bien, enfin des petits biens,